William Shakespeare est célèbre dans le monde entier parce qu'il est probablement le plus grand écrivain, poète et dramaturge de langue anglaise. Il a composé un nombre important de pièces de théâtre et j'ai déjà eu l'occasion de citer un passage de Macbeth qui fut joué la première fois en 1623. Dans une scène, Shakespeare décrit Lady Macbeth qui, marchant dans son sommeil, s'exclame en se frottant la main: Va-t'en, maudite tache, je te le dis, voilà qu'il y a encore l'odeur de sang. Tous les parfums d'Arabie n'adouciront pas cette petite main. Comme c'est bien vrai, même si on peut parfois atténuer les injures du temps, tôt ou tard la vieillesse nous emmène tous au tombeau. Tous les parfums d'Arabie n'adouciront pas la petite main de Lady Macbeth, et toutes les fragrances du monde ne peuvent rendre un cœur pur. Les hindous croient qu'en se baignant dans le Gange, ils purifient leur cœur, mais essayer de se rendre acceptable devant le Dieu du ciel par un rite religieux, c'est comme verser un seau de parfum Chanel numéro 5 sur un tas de fumier pour qu'il sente bon. La pureté de l'âme ne peut pas s'obtenir en étant ceci ou en faisant cela. Dans le livre des Proverbes, on lit: Qui osera dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de toute faute » si par mes propres moyens, il ne m'est pas possible de me rendre propre et digne devant Dieu, je peux par contre très facilement me salir. Je continue à lire dans le livre du prophète Agée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Demande donc aux prêtres leurs instructions. Dis-leur. Si un homme s'est rendu rituellement impur par le contact d'un cadavre et touche à l'un de ses aliments, ceux-ci seront-ils rendus impurs par là? Oui, répondirent les prêtres, ils seront impurs. Verset 13. Sous la loi de Moïse, toucher un cadavre était le geste qui procurait la plus grave des souillures rituelles parce que ce type d'impureté est lié à la réalité la plus tragique qui soit. La mort est la conséquence du péché. Cette souillure durait 7 jours et ne pouvait être purifiée que par une succession de rites complexes et contraignants. Je lis un passage. Voici la loi qu'il convient de suivre si quelqu'un meurt dans une tente. Tous ceux qui entrent dans la tente, comme tous ceux qui se trouvent déjà dans la tente, seront impurs pendant 7 jours. Tout récipient ouvert, sur lequel il n'y a pas de couvercle attaché, sera impur. Si quelqu'un touche dans les champs le cadavre d'un homme tué par un autre ou mort naturellement, ou bien bute sur des ossements humains ou sur une tombe, il sera impur pendant 7 jours. Pour le purifier, on prendra des cendres de la vache consumée en sacrifice pour le péché, on les mettra dans un récipient et l'on versera dessus de l'eau de source. Un homme en état de pureté prendra une branche d'hysope et la trempera dans l'eau, en aspergera la tente où quelqu'un est mort, ainsi que tous les ustensiles et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il fera de même pour celui qui a touché des ossements, le cadavre d'un homme tué par un autre, ou mort naturellement, ou une tombe. L'homme pur aspergera celui qui est souillé le 3e et le 7e jour. Le 7e jour, il le purifiera entièrement de sa faute. L'homme impur lavera ses vêtements et se baignera, et le soir, il sera pur. Mais si l'homme qui s'est souillé néglige de se purifier ainsi, il sera retranché de la communauté, car il souille le sanctuaire de l'Éternel. Puisque l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il reste impur. Ce sera pour eux une ordonnance en vigueur à perpétuité. Celui qui aura fait l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera cette eau sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera l'homme impur sera impur. Et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Une personne rituellement impure communiquait sa souillure à tout ce qu'elle touchait. objet animal ou être humain. Cette règle de transmission d'un acte coupable énoncée dans la loi de Moïse nous paraît étrange, mais son but était d'enseigner que nous baignons dans une mare de péché. La souillure rituelle est semblable aux maladies contagieuses virulentes qui se communiquent facilement d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, nous en avons encore beaucoup qui sévissent dans le monde, comme le paludisme, les MST, le sida. Au Moyen Âge, la peste a décimé des populations entières parce qu'on ne savait pas d'où elle venait, comment elle se propageait et comment l'enrayer. Tout comme le péché, les maladies contagieuses sont un mal qui s'étend inéluctablement si on ne prend pas des mesures draconiennes efficaces pour l'arrêter. Justement, et c'est intéressant de le noter, les communautés juives furent bien moins exposées aux ravages de la peste noire parce que les juifs respectaient les règles d'hygiène prescrites par la loi de Moïse. Ils étaient très méticuleux et comme pour eux, le simple fait d'entrer en contact avec une tombe les rendait rituellement impurs, ils avaient coutume de badigeonner tous les ans les tombes en blanc afin qu'on les voie de loin et ainsi évite de les toucher par mégarde. Jésus a d'ailleurs utilisé cette image dans sa condamnation des chefs religieux. Je lis le passage. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossement de cadavres et pourritures. » Toute la partie rituelle de la loi de Moïse ne concernait que les Juifs. De plus, elle a été entièrement abolie par Jésus qui est venu pour satisfaire toutes les exigences de toute la loi, qu'elle soit cérémonielle, spirituelle ou morale. La loi a été remplacée par le Christ dont l'œuvre rédemptrice s'étend à tous les hommes de toutes les cultures de tous les temps. Son sacrifice permet à tous ceux qui se confient en lui d'être pardonnés et d'obtenir un cœur régénéré et pur devant Dieu. Or, rien ne saurait être plus précieux en ce bas monde que de recevoir le pardon de ses péchés. À son peuple rebelle, Dieu dit « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Le pardon des fautes s'obtient facilement car Dieu n'est pas difficile à vivre. Il suffit de le lui demander et de le recevoir avec la simplicité d'un enfant qui reconnaît sa culpabilité. Celui qui confesse sa misère morale et accepte en son âme et conscience le salut que Jésus offre gratuitement à toute personne qui le souhaite, reçoit la vie éternelle et une nouvelle nature, c'est-à-dire le désir de vivre pour Dieu et de vaincre le mal. L'apôtre Pierre écrit « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. » Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Je continue le texte d'Agé. Alors Agé reprit et dit, « Ainsi en est-il de ce peuple. Voilà ce qu'est cette nation à mes yeux, l'Éternel le déclare. Ainsi en est-il aussi de toutes leurs réalisations et de tout ce qu'il m'offre là, sur l'autel des holocaustes, c'est impur. » Verset 14. Comme lors du premier discours du prophète, l'Éternel appelle la colonie juive « ce peuple » et non pas « mon peuple » selon la formule habituelle. Après avoir interrogé les prêtres et entendu de leur bouche que la sainteté ne se communique pas, mais que la souillure contamine tout ce qu'elle touche, Agé en tire une leçon pratique qu'il applique aux Israélites. Tout comme un fruit sain ne peut assainir ceux qui l'entourent, alors qu'un fruit pourri corrompt ceux qu'il touche, les actes cultuels et les sacrifices que les colons offrent ne sauraient compenser leurs fautes et sanctifier leur vie qui était souillée par leur indifférence à l'égard de l'Éternel et de sa maison en ruine. Leur refus de reprendre la construction du temple qu'ils avaient interrompu les souillait eux-mêmes ainsi que tout ce qu'ils touchaient, tant les travaux des champs que les actes cultuels. Ils immolaient bien des animaux sur l'autel des holocaustes, rétabli voilà déjà 18 ans, mais comme ces sacrifices étaient offerts par un peuple souillé, ils étaient impurs, ce qui avait eu pour conséquence d'éloigner la bénédiction divine de tous les aspects de la vie des colons. Ce n'est pas parce que les Israélites sont revenus en terre sainte qu'ils sont automatiquement sanctifiés. Il faut aussi qu'ils obéissent à l'Éternel en reprenant la construction du temple. L'arrêt des travaux avait constitué une impureté qui avait contaminé toute la vie des colons, y compris les travaux agricoles, qui ne donnaient pas les résultats escomptés. Ceux qui s'approchent du Dieu saint doivent eux-mêmes être saints. Ce n'est pas un autel ou la terre promise qui va produire une sainteté infuse par contact ou par capillarité. Chaque membre du peuple de Dieu a l'obligation personnelle d'être saint en menant une vie juste au regard de Dieu. Je me suis demandé pourquoi AG fait un discours critique qu'il va d'ailleurs poursuivre aux colons alors qu'ils viennent justement de reprendre les travaux du temple avec enthousiasme. C'est sans doute pour enfoncer le clou dans un but pédagogique afin qu'ils ne s'avisent pas à négliger à nouveau l'œuvre de Dieu. Dans l'ancienne version grecque, le verset 14 est suivi d'une longue phrase qui censure l'attitude des colons et qui, de toute évidence, a été rajoutée par un scribe un peu trop zélé. À quelque chose près, les 5 versets suivants sont repris par le prophète Zacharie. Je continue le texte. Et maintenant, considérez à partir de ce jour en remontant en arrière, avant qu'on eût repris la construction du temple de l'Éternel. Verset 15. C'est la troisième fois que le prophète exhorte les colons à bien considérer, à fixer leur cœur sur une situation particulière. Il renouvellera cet appel encore à 2 reprises, soit 5 fois en tout dans son livre. Ici, Agé remue le couteau dans la plaie, en reparlant des années de disette qu'ont connues les colons. Il leur demande de se souvenir des conséquences de leur désobéissance quand, après avoir posé les fondations du temple, sous le règne de Cyrus, ils ont interrompu les travaux de reconstruction. Ils ont alors vécu une situation économique désastreuse qui a perduré jusqu'à ce qu'ils recommencent à reconstruire le temple, ce qui a eu lieu suite au premier discours du prophète. Je continue. Avant qu'on eût repris la construction du temple de l'Éternel, vous alliez à un tas de blé supposé contenir 2 quintaux, mais il n'y en avait qu'un. Vous vous rendiez au pressoir, vous espériez obtenir 1 hectolitre de vin, et vous ne trouviez que 40 litres. Verset 16. Agé a déjà mentionné les récoltes minables des colons quand il a dit « Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. » Ici, le prophète donne des précisions supplémentaires concernant les rendements qui étaient considérablement moindres qu'escomptés. Je continue le texte. « Je vous ai châtié en frappant le fruit de votre travail par diverses maladies des céréales et par la grêle, mais vous n'êtes pas revenu à moi, l'Éternel, le déclare. Verset 17. Comme précédemment, Dieu assume l'entière responsabilité du désastre économique qui a frappé la colonie juive. C'est la grêle, un fléau encore très redouté par tous les vignerons, qui a détruit la vigne des colons juifs. Quant aux céréales, le texte hébreu mentionne deux maladies qui sont la rouille et la nielle. On les trouve d'abord dans les malédictions prévues par la loi, puis dans la prière de consécration du temple du roi Salomon, et enfin sous la plume du prophète Amos qui écrit « Je vous ai frappé par la rouille et la nielle, et puis j'ai desséché vos jardins et vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les criquets. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi. L'Éternel le déclare. » Agé dit littéralement « Pourtant pas, vous vers moi. » L'Éternel le déclare. Ce qui correspond au passage parallèle du prophète Amos, mais sans le verbe qui est sous-entendu. Dans une société orientée vers l'agriculture, de tels châtiments étaient une catastrophe économique qui menaçait la survie des habitants. Je continue. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite. Mais réfléchissez d'abord à ce qui est arrivé depuis aujourd'hui, qui est le 24e jour du 9e mois, en remontant en arrière jusqu'au jour où la fondation du temple de l'Éternel fut posée. Oui, faites bien attention. Verset 18. Comme en hébreu ce verset est embrouillé, j'ai fait une paraphrase. C'est la quatrième fois que j'ai dit « considérez attentivement ». Littéralement, fixez votre cœur sur, et de plus, il tourne et retourne le couteau dans la plaie en insistant lourdement sur la désobéissance passée des colons juifs. Il va enfin terminer ses commentaires concernant le châtiment de Dieu, mais il veut que les colons reviennent encore une fois en arrière dans leurs pensées et considèrent les années de disette qu'ils ont subies depuis les premiers travaux de restauration du temple qui avaient été entrepris sous le règne de Cyrus jusqu'au temps présent, qui est le 18 décembre 520, jour de son troisième message. Agé leur demande d'embrasser du regard cette période où le peuple a manifestement été privé de la bénédiction divine parce qu'il avait renoncé à reconstruire le temple. Bien que cela fasse maintenant 3 mois que les colons ont repris les travaux, ils ont engrangé une très mauvaise récolte parce qu'ils subissent encore les conséquences fâcheuses du jugement de Dieu sur l'année précédente. Les suites douloureuses des vieux péchés se prolongent souvent au-delà du moment de la repentance. C'était vrai pour les croyants sous l'Ancienne Alliance, et ça l'est également sous la Nouvelle. Un fumeur invétéré qui accepte Jésus comme son sauveur pourra expérimenter la délivrance du tabagisme, mais il est peu probable qu'il reçoive une nouvelle paire de poumons tout roses. Nous sommes le 18 décembre 520, et à partir de maintenant, la situation des colons va changer pour le mieux, car ils vont expérimenter la bénédiction divine qui a commencé dès la reprise des travaux de reconstruction du temple, mais qui se traduira seulement dans les faits au moment de la prochaine récolte. Je continue le texte. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers, même si la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit? À partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous. Verset 19. Le grain, le vin et l'huile faisait partie des denrées de base essentielles à la subsistance, tandis que les grenades et les figues étaient des aliments de luxe. À cause du jugement de Dieu, la maigre récolte de l'année précédente qui n'avait pas été la proie des insectes et des maladies, a été dévorée et les granges sont vides. Mais à partir de maintenant, place à la bénédiction divine. Et bien qu'il n'y ait encore aucune trace de feuilles ou de fruits dans les terres cultivées et sur les arbres fruitiers, rien par lequel on puisse faire une estimation de la prochaine récolte, l'Éternel promet qu'elle sera abondante. Dieu promet d'étendre ses bienfaits sur son peuple, c'est-à-dire la fertilité des champs et l'abondance de nourriture. Cela faisait partie des bénédictions de la loi. Je lis un passage. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel votre Dieu vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Et plus tard, le prophète Malachie écrira: Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple. Mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Aujourd'hui, dans son arrogance, l'homme moderne prétend ne plus avoir besoin de Dieu. Pourtant, il est totalement dépourvu devant ce qu'il appelle les catastrophes naturelles. Mais le sont-elles vraiment?